Midi 34 minutes, merci d'être là les amis sur Boulevard, en vous rappelant qu'on a parlé un petit peu de la programmation tantôt, les nouveautés qui arrivent sur Boulevard.
Dès lundi prochain.
Dès mardi prochain, parce que lundi, on n'est pas en congé.
J'oublie, c'est la fête du travail, donc on fête en étant en congé, c'est ça que tu as dit hier?
Exactement, donc voilà. Mardi techniquement, tout le monde prend la place et puis on va vous donner le meilleur show possible, bien entendu. Mais sinon, si vous n'étiez pas là, on recommence ça vers 16h tantôt avec Denis Gravel. Les grands boss vont expliquer toutes les décisions des derniers jours. Puis j'aurai le plaisir d'être là avec Denis, Véro et Audrey et Pascal. Pascal s'en va pas, là.
En passant, je t'ai entendu tantôt, là, pendant que tu m'as remercié, puis c'était pas mal le petit stop. Je vous laissais Denis et toi en parler, mais je veux te remercier aussi sincèrement, Yannick. Ça a été deux années challengeantes, puis on s'agace énormément, mais honnêtement, j'ai eu du fun. C'était plaisant, puis merci de laisser de la place à une femme pour te challenger, pour avoir des débats d'idées. Tu m'écoutais pas tout le temps, mais ça, c'est ton déficit d'attention. Mais tu me laissais parler de politique, puis ça, j'apprécie. J'ai eu du gros fun avec toi, Marceau, honnêtement. Fait que je tenais à le dire.
Mais tu sais quoi, la place...
On s'agaçait plus que l'appréciation qu'on aurait l'un pour l'autre. Là.
Ouais. La, on place, aimait ça, c'est la place, on la donne pas à une femme. On accepte que les gens, les êtres humains, qui en valent la peine d'être entendus, soient entendus. Puis t'as eu ta place pas parce que t'es une fille, t'as eu ta place parce que t'es un être humain qui a bien du jugement, puis la plupart des gens qui t'écoutent t'aiment.
Sauf toi.
J'ai jamais dit ça.
Mais
j'ai
tu m'écoutes pas. Fait
j'ai
que
dit que t'apprécies. L'amour, c'est profond, l'amour.
Oui, qui aime bien châtie bien, qu'on dit.
Mais à partir de mardi, OK, je vais vérifier dans mon cœur si, c'était de l'amour profond.
Si c'était vraiment
si
de l'amour.
C'était de l'amour amical. Si c'était de l'amour...
imposé par le professionnel.
Imposé par mes patrons.
Oui, OK. T'auras le temps. J'ai l'impression que ta réflexion va être longue.
Ben oui, on va s'ennuyer. Qu'est-ce qui arrive avec Pascal? Vous l'avez pas entendu, elle s'en va à Rouge FM. Ouais, elle va spinner des tunes.
T'es-tu idiot?
Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs.
Je reste au midi, Jeff Fortin s'en vient.
Exact.
Et Antonine Iacarini est tellement contente aussi.
Ta chum de fille en plus, vous allez être gâtée. Jeff va être gâté. Pluie pour aujourd'hui, c'est ce qu'on nous mentionne chez Environnement Canada. Maximum de 18 pour Québec ce soir, cette nuit, généralement nuageux, avec un 60% de probabilité d'averse, minimum de 13 degrés. Vendredi, ce sera des averses avec risque d'orage en après-midi, maximum de 16. Samedi, le week-end, de la pluie pour samedi, 60% de probabilité d'averse, maximum de 20 degrés. Et dimanche, ce serait le retour du soleil avec un maximum de 22.
Là, on l'annonce officiellement, c'est Radio Galilée. C'est là que je m'en vais.
Oui. Il y a quelques prêtres qui vont faire un saut.
Torsez-vous.
Mathieu Thomasin, chroniqueur automobile, salut.
Ah, bonjour tout le monde, bienvenue à cette belle parole. Faut que je me pratique, là. Je sais plus si je m'en vais avec Pascal Marceau. Ça n'a pas de sens, cette histoire.
On déchire, Mathieu.
Ça va bien aller, ça va bien aller. On parle des trocs RAM. Sérieusement, quel beau modèle de véhicule. À chaque fois que je les vois passer sur la route, Matt, sont exceptionnels. Ils ont du look, puis le moteur, il est là, puis pas à peu près. Là.
Effectivement, et on n'oublie pas aussi qu'on avait fait... On s'est un petit peu écarté cependant en disant ben écoute, on va éliminer toutes les motorisations V8 et devine quoi, on est revenu aussi à la base de ce que c'est vraiment un camion. Et là, comment se rescaper un peu de cette histoire-là, se réchapper un peu de la bourde qui est commise? Imagine-toi donc que RAM Canada annonce une garantie du groupe motopropulseur de 10 ans et 160 000 km. Donc, on va vraiment suivre l'annonce là, que ça a été fait du côté des États-Unis dernièrement. Et je dois te dire que ça me surprend quand même un peu qu'on aille dans cette direction-là, parce qu'il faut pas que se le cacher. Là. Qu'est-ce qui va rassurer un acheteur bien souvent? C'est la garantie d'un véhicule. Plus elle est étoffée, mieux c'est pour celui-ci, mais ça vient quand même avec un coût assez majeur là, du côté du manufacturier. Donc, ce n'est pas nécessairement évident. Mais je te dirais qu'au moins du côté motorisation, ça va. Il ne faut pas oublier que la grande garantie, cependant, par choc à par choc, ben, ce n'est pas vraiment celle-ci qui va être couverte présentement. Mais au moins, ça rassurera quand même les acheteurs et ça risque de changer un petit peu la valeur aussi à long terme au travers de tout ça.
Okay. Est-ce que les modèles électriques, ce sera la même chose?
Non, ça ne sera pas la même chose là, présentement là, du côté des modèles électrifiés. Il faut dire aussi là, que quand on regarde ce genre de mouvement-là dans l'industrie, là, il y a un coût par camion. Donc, en ajoutant là, cette garantie-là sur tout ce qui est les 1500, les Heavy Duty, voire même les Pro Master, je te dirais que Par rapport à un véhicule, il faut regarder quand même des données de l'industrie. Si on parle d'une garantie de 5 ans à 100 000 kilos par véhicule, ça peut tourner entre 1 000 et 1 500 $ sur un nombre quand même assez volumineux de vendus au travers de tout ça. C'est sûr que si on ajoute le 5 ans supplémentaire, et là encore là, c'est des chiffres, bon, que je te dirais qu'on a fait quand même certains travails d'analyse, on parle de 2 à 3 000 $ par véhicule. C'est sûr qu'on oublie là, les fameux cas extrêmes où est-ce qu'il y aurait des réparations beaucoup plus majeures, mais dans la moyenne, c'est ça qui est absorbé. Fait que, tu sais, les coûts pour le manufacturier peuvent quand même varier. C'est sûr qu'eux autres vont utiliser leur provision comptable et statistique un peu pour lisser les coûts de tout ça, mais c'est un move qui est très, très, très impressionnant dans une ère où est-ce qu'on a beaucoup d'électronique, de technologie, mais c'est sûr qu'on repose quand même sur une mécanique, surtout lorsqu'on parle des bons vieux moteurs EMI qui n'étaient pas si pires que ça, mais c'est tout l'alentour des fois qu'il faut quand même s'assurer que l'industrie globalement améliore la fiabilité des véhicules.
Pour ce qui est des camionnettes, quelle autre camionnette offre à peu près la même garantie que Ram offre? Est-ce que Toyota est embarqué là-dedans?
Eh bien, écoute, garantie de base, présentement, il n'y a pas grand personne qui accote ça. C'est sûr qu'on offre toujours des plans de garantie prolongée. Puis ça, c'est la grande question souvent qu'on reçoit. Est-ce qu'on y va de l'avant ou non? Et ce genre de garantie prolongée-là, souvent, elle n'est pas négociée tout de suite à l'achat du véhicule, hein? On vous la propose quand vous êtes rendu dans le fameux bureau de la FNI, hein? Donc, je vous le dis tout de suite, faites attention. Il y a certaines sirènes je ne sais pas comment le dire là, pour les hommes qui travaillent dans ce domaine-là. Là, je te dirais des gars d'occupation double là, qui sont souvent dans ce bureau-là.
C'est vrai que c'est pas mal tout du beau monde hein, quand tu embarques dans ce bureau-là. Là. C'est tous des gens qui ont une belle présentation.
Hey, on peut choquer un peu l'auditoire. Moi, je suis sûr qu'il y a un bouton qui se détache une fois de temps en temps quand c'est monsieur qui arrive. C'est une certaine sirène de FNI. Je te le dis tout de suite, ils ont un point en commun. Elles sont toutes jolies, je te le confirme. Mais leur travail, c'est quoi? C'est de vendre certains produits d'assurance, certains produits, disons, de garantie prolongée, voire même certains produits d'anti-rouille que, là, écoutez, là, il y a des fois là, que je peux pas croire qu'on essaie encore d'en passer là-dessus.
Ouais. Donc, est-ce qu'on pour a les d'autres... autres manufacturiers... Ouais, excuse, Matt, est-ce qu'on a d'autres choix, à part le FNI directement chez le concessionnaire? Y a-t-il d'autres personnes qui peuvent nous offrir à peu près les mêmes services moins chers?
Bien, c'est sûr que moi, je ne recommande jamais d'aller vers certains services externes lorsqu'on parle de garantie prolongée. Si vous voulez acheter une garantie prolongée, puis vous rassurez, puis vous êtes persuadé que vous n'avez besoin d'une, celle-là du manufacturier, c'est celle-là que je vous recommande. Et lorsqu'on parle de produits d'assurance, je ne sais pas moi, de protection de peinture, protection de tissu, anti-rouille, tout ça, là, aller magasiner à l'extérieur, ça ne vaut pas la peine. Et je vous rappelle la technique aussi, que ce soit pour n'importe quel produit, vous allez dire non, et là, vous allez avoir des fois un espace-temps là, pour la livraison de votre véhicule. On vous rappelle, puis dit, écoute, j'ai regardé ça, je t'offre ça 50 % de moins, méchant deal. Et vous allez être tenté d'accepter pour ces différents produits-là, mais je vous le dis tout de suite, résistez. La chose qui peut valoir la peine, c'est lorsqu'on achète un véhicule, que celui-ci n'est pas réputé pour être un des plus fiables, et vous le savez, vous avez fait vos devoirs, là, la garantie prolongée du manufacturier, c'est là de l'allure côté prix. Je commence pas mal à changer d'avis, mais tout ce qui est des fameuses PPP de véhicules usagés, pis ça, soyez très prudents, parce que la seule garantie qu'il y a bien souvent, c'est qu'ils ne paieront pas s'il arrive de quoi. Et souvent aussi, les genres, tu sais, tu dois donner un certain montant au départ là, pour faire respecter la garantie, et ça vient que ça ne vaut pas nécessairement la peine. Soyez prudents avec tout ce qui est PPP. Lisez bien les petits caractères et prenez le temps de vous informer sur, pas juste de notre côté, là, des fois même la facture qui fait un bon travail, ouais, qui en parle souvent, l'Office de protection du consommateur qui en parle souvent. Faites bien attention là-dessus.
Oui, puis on en a déjà jasé, toi et moi, dans le fameux bureau du FNI, là, toi, t'es juste content de prendre, d'avoir la clé de ton nouveau véhicule, t'as juste hâte de partir avec, mais il faut prendre le temps de lire absolument tout ce qu'il y a sur le contrat pour être sûr et certain de ne pas avoir trop de surprises. Il y a des gens qui, encore à ce jour, pensent que le prix qui est indiqué sur le véhicule, c'est le prix qu'ils vont payer. Mais regardez comme il faut votre contrat, là. Puis votre véhicule, là, ce ne sera pas le prix que vous avez vu au départ que vous allez payer après 6 ans, après 8 ans. Là.
Non, et bien souvent, on oublie le prix du financement. Et nombreux sont ceux qui ont une petite surprise, une petite assurance qui s'est rajoutée sur le side, un petit frais de plus. Écoute, des protecteurs de catalyseurs. Ça, je vois ça très souvent du côté de Mitsubishi présentement. Écoutez, là, la série des vols de catalyseurs, ça s'est pas mal relaxé, là.
C'est
puis
quoi?
je vous dis
Ça
tout.
s'attache autour puis ça le bloque, fait que t'es pas capable de le voler?
Oui, et sais-tu qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils rajoutent systématiquement sur la facture en disant hey, là, fais attention, tu vas te faire voler ça dans ta cour, là. Je vous le dis tout de suite, là, la mode a énormément ralenti. Moi, je focuserais plus, beaucoup plus, sur un bon système de sécurité autour de chez vous, là. Puis dites-vous qu'un catalyseur, bon, bien que ça se vole rapidement, et vous avez des risques de l'entendre. Fait que placez-vous une bonne caméra de sécurité avec une alerte, là, puis vous allez pogner comme il faut. Je vous confirme que le vol de véhicule, il est encore présent, mais beaucoup moins. On a travaillé très fort là-dessus, là. Puis je pense que certains petits mineurs ont reçu une petite leçon aussi en lien avec tout ça. On n'est pas à l'abri de rien, certes, mais de là à rajouter, et ça varie des prix entre 5 et 900 $ sur la facture pour un genre de protecteur de même, aïe, 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 s'il vous plaît, à la limite, allez vous faire botter n'importe quelle pièce de protection que vous prenez encore une fois sur Internet, ça va vous coûter encore une fois moins cher. Donc, soyez prudents et faites attention pour ne pas voir des assurances dont vous n'avez pas de besoin, dont vous avez déjà magasiné avec votre assureur principal. Bien souvent, on vous rajoute ça sur la facture, mais ça ne donne rien de doubler une assurance.
On parle maintenant du Consumer Reports. Parle-moi de ce que c'est que le Consumer Reports qui ont fait une enquête auprès de 300 000 conducteurs. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça t'a marqué, ça, cette enquête-là? Mais d'abord, le Consumer Reports, c'est quoi?
Bien, écoute, le Consumer Report, c'est vraiment un organisme premièrement américain qui est un peu l'équivalent de Protégez-vous, hein, et qui font des études pour le consommateur. C'est orienté consommateur. Et selon moi, là, dans les grandes entités, souvent on parlait de JD Power et ainsi de suite. Ça a perdu beaucoup de crédit à mes yeux parce qu'on fait beaucoup trop affaire avec la vente de véhicules et non seulement les fabricants. Tandis que Consumer Report est vraiment indépendant. Voyons-le, comme je vous dis, comme Protégez-vous, mais comme un peu l'émission La Facture aussi, ou encore un petit peu la protection du consommateur. Et ils ont fait une enquête auprès de 300 000 conducteurs américains qui, bien entendu, s'interrogeaient à savoir si la fiabilité, est-ce qu'elle garantissait la satisfaction des propriétaires. Mais ce qu'on a découvert, c'est que les marques les plus fiables ne sont pas toujours celles qui rendent leurs propriétaires les plus satisfaits. Et on a employé des exemples extrêmes de Rivian. Où est-ce que Rivian, les fameux R1T, R1S, ici, on n'en voit pas bien, hein, on se le dit tout de suite. Malgré un taux de fiabilité extrêmement faible, c'est les plus satisfaits à 5 sur 5. Donc, les acheteurs, eux autres, ils apprécient l'autonomie, le style, la performance, l'espace intérieur. Et même si la voiture nécessite des visites en atelier pour certains, que c'est complètement fou, bien, devinez quoi? La satisfaction est de 5 sur 5. C'est sûr que c'est un peu honteux et gênant dire qu'on n'est pas, comment dire, satisfait d'un véhicule à très haut prix qu'on achète. Il n'y a pas personne non plus qui veut se dire « Ben écoute, j'ai dépensé 120 000, puis je ne suis pas satisfait. Hein? » Souvent, l'orgueil en prend un coup.
Mais ça ne va pas toujours avec le prix. Tu vois, la semaine passée, je suis allé chez un concessionnaire parce qu'il y a un de mes chums qui voulait s'acheter un char neuf, puis je l'accompagnais. J'ai essayé tous les véhicules du concessionnaire. J'ai embarqué dans un véhicule, écoute, un véhicule de 150 000 piastres électriques. Fait que là, tu vas savoir de quel véhicule que je parle. Je me suis assis là-dedans et je me suis dit, mais comment les gens peuvent acheter ça? C'est même pas confortable. T'as pas vraiment de place là, pour ce qui est de l'endroit où tu t'assois. Ça va pas toujours avec le prix, Matt.
Ben non, ça va pas toujours avec le prix. Puis regarde, les marques fiables, mais satisfaction moyenne. Subaru, Toyota, Lexus, c'est souvent les marques les plus fiables. Ils ont des scores très élevés. Mais elles sont pas en tête de la satisfaction. Elles sont 8e, 13e et 5e. Du côté de Chevrolet, on sait que c'est pas nécessairement tout ce qui est plus fiable, mais ça se classe bien en satisfaction pour les véhicules d'entrée de gamme. Et tout ce qui est Audi, Buick, Ram, Chrysler, Nissan, Volkswagen, Mercedes et Jeep obtiennent des scores les plus faibles de satisfaction, cependant. Et on dénote même que les propriétaires ne rachèteraient pas la même marque. Ce qu'il faut retenir, c'est que posséder un véhicule fiable, ça n'assure pas nécessairement le bonheur du conducteur. Et souvent, la fiabilité va rimer avec moins de fun derrière le volant aussi. Il ne faut pas oublier que pour aujourd'hui, on se rend compte que les consommateurs aiment le plaisir, la technologie, le confort. Puis tout ça, là, c'est souvent trace de problème. Quand on parle de technologie d'aujourd'hui, regardez les véhicules électriques, souvent c'est bourré de gremlins, mais les gens sont prêts à vendre leur âme à l'Église et de continuer la bonne parole et de faire praise Tesla au travers de tout ça, car c'est le meilleur véhicule de ma vie que j'ai jamais eu. Tandis que les affaires, sans queue ni tête, tant au niveau de l'assemblage, tant au niveau de la finition, qui pourraient brimer, et les gens aiment cependant quand même en parler. Donc, je vous le dis tout de suite, fiabilité n'égale pas nécessairement satisfaction, mais pour Oncle Matt, là, moi, la fiabilité passe avant tout parce que ça parle à mon portefeuille qui y reste quelques vins dedans, alors que je n'ai pas besoin de mettre des réparations majeures sur mon véhicule qui reste fiable.
Est-ce que les constructeurs, les gens qui prennent des grosses décisions chez le constructeur, prennent en considération des enquêtes comme le Consumer Reports qui mentionne que les marques les plus fiables ne sont pas nécessairement toujours celles qui rendent leurs propriétaires les plus satisfaits? Il me semble que l'objectif, c'est de rendre tes clients les plus satisfaits possible pour qu'ils reviennent après 5 ans, après 6 ans. Je parlais avec quelqu'un la semaine passée qui me disait qu'il changeait de char aux 2 ans, 3 ans, puis c'est toujours la même marque. Lui, c'est tout le temps un Mazda. Il ne jure que par Mazda. Les constructeurs prennent ça en considération, ça?
Je te dirais que oui, mais il ne faut pas oublier que plusieurs constructeurs qui sont lents avant de faire des changements. Les camions vont rester pareils très longtemps. On peut prendre l'exemple de Toyota qui a vraiment une lenteur à sortir des nouveaux modèles. Rappelle-toi, on a parlé du Forerunner dernièrement. Ça a duré une décennie avant qu'on... même plus qu'une décennie avant qu'on fasse des changements majeurs. Même chose pour le Corolla, même chose pour... Le côté japonais même de Honda force les véhicules à très peu évoluer, puis on ne va pas nécessairement rechercher ce plaisir-là. Tandis que quand on se retourne du côté coréen, où est-ce que je vois encore des fois des petits gremlins de fiabilité, mais on se rend compte qu'on crée un attrait par rapport au style visuel, par rapport à la technologie. Donc, je crois qu'on a fait nos études, on sait, on amène un style dynamique et différent, et souvent, les gens sont prêts à plus pardonner côté fiabilité, ce qui me surprend. Mais c'est pour ça qu'on fait des études. Et dis-toi qu'il y a des groupes d'appréciation, des sondages. Non seulement les acheteurs, là, si j'étais un manufacturier, tu peux être sûr que j'étudierais comme il faut qu'est-ce qu'ils veulent, surtout dans une direction aujourd'hui où est-ce que développer une nouvelle plateforme, un nouveau véhicule, un nouveau système multimédia coûte des milliards de dollars à une entreprise. Et on regarde aussi ce qui se passe du côté chinois. Là. Les véhicules chinois, je vous le dis tout de suite, ça cogne à la porte du Canada là, présentement. Puis il va falloir que nos décideurs allument rapidement parce que ça peut être un game changer majeur. Et les Chinois sont créatifs, ils amènent des nouvelles technologies. Bon, on est loin d'être les rois de la fiabilité, mais un sondage comme ça nous le dit. Il va y avoir des acheteurs pour ça qui vont être contents.
Il y a des rumeurs comme quoi Nissan prépare un grand coup d'ici 2027?
Oui, effectivement, on aurait le retour d'un classique. La marque nous annonce qu'elle va lancer pas moins de 20 nouveaux modèles en Amérique du Nord, mais la vraie surprise, ça demeure le retour du Xterra, qui devrait être annoncé en 2027 et va faire le retour officiel en 2028. Puis contrairement aux rumeurs qui parlaient d'un modèle 100% électrique, le Xterra va vraiment miser sur une nouvelle plateforme là, classique. Là. On va parler d'un V6 hybride, puis même une option avec une autonomie électrifiée jusqu'à 120 000 km, ce qu'on appelle communément en anglais un range extender. Puis cette renaissance s'inscrit un peu au niveau de Nissan dans un virage qui prévoit des générations renouvelées pour le Rogue, le Sentra, le Frontier et sans oublier l'Infiniti QX60 aussi. Fait que les amateurs de véhicules costauds et d'aventure vont être quand même très servis parce que le Xterra, dans le temps, avait causé vraiment un emballement populaire.
Vraiment.
C'est drôle parce que je suis retourné dans le temps pour voir comment coûtait un Xterra en 2023. Puis c'était pas donné, là. Le prix de départ était à 29 798 pour un Xterra XE. Et si vraiment vous vouliez aller avec une transmission automatique, c'était un 1200 de plus. T'ajoutais du cuir 2000 de plus, mais t'avais quand même le côté hors-route, le côté baroudeur et non seulement 5000 livres de remorquage avec une fiabilité qu'on aimait. C'est plus le body qui lâchait autour que la mécanique.
Bien, c'est là où je voulais en venir parce que les Xterra, effectivement, moi, je trouvais que c'était des beaux modèles de véhicules. C'était dynamique comme véhicule, c'était sportif, t'avais de de la place en masse pour les enfants. Si tu partais pour la fin de semaine, tu pouvais stocker en masse. Tu pouvais avoir des remorques là-dessus sans aucun problème. Mais le body rouillait facilement, comme les anciennes Mazda dans le temps, là, qui devenaient comme... comme s'il y avait la piquette.
Un fromage gruyère de rouille.
Oui, c'est ça. Mais, ça, j'imagine, avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, ils ne sortiront pas la même chose qu'on avait en 2015, là.
Non, il ne sortirait pas, mais je vais être franc avec toi. Des fois, là, je regarde ailleurs dans le monde et il existe encore une Micra, il existe encore un Corolla Wagon ultra abordable, manuel, 5 vitesses. Le premier manufacturier à ramener un véhicule fiable, beau bon, pas cher, avec lequel la facture va être très peu élevée, va scorer extrêmement fort, du moins au Québec, parce qu'on en a besoin. De l'accessibilité à des véhicules pas chers. Et tout coûte cher là, au niveau du coût de la vie. Fait que le premier qui va réussir à faire ça, ça va quand même scorer. Donc, si on ramène un Xterra, quand même qu'il soit un peu plus rugueux, mais avec des technologies modernes, ça risque de marcher. Mais le prix va faire foi de tout, car rares sont les véhicules en bas de 60 000 $ financés aussi aujourd'hui qui ont de l'allure.
Chrysler a surpris beaucoup de monde avec son concept Pacifica.
Oui, il y a un Pacifica qu'on appelle le Grizzly Peak, inspiré d'un genre de mouvement de van life qui est en grande popularité. On a rehaussé la minivan de 2,8 pouces à l'avant, 2,5 pouces à l'arrière. On a monté le tout sur des pneus BF Goodrich de 31 pouces. On a mis vraiment là un rack de toit avec roue de secours, les lumières auxiliaires, puis même un genre d'auvent rétractable. Et on a réinventé comme un peu le côté aventure parce qu'on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de personnes qui trippent aventure. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la minivan, ils créent aussi un aménagement intérieur, ils l'ajustent. Donc, c'est quand même intéressant de voir du côté de Chrysler nous proposer ça. Par contre, la seule affaire, ils ont fait une petite gaffe, ils ont retiré la troisième rangée pour offrir que 4 places, comme 4 espaces capitaine. Fait que là, on peut-tu appeler encore ça une minivan? Je pense pas. Mais on peut appeler ça un genre de wagon d'aventure, c'est sûr. Puis ça nous
un wagon d'aventure, on joue-tu sur les mots?
Mais moi, je l'ai essayé, le Pacifica, okay. Là, sérieux. L'essayer, c'est vouloir l'adopter.
C'est cette van-là que tu voulais acheter, finalement, quand tu l'as essayé, là?
J'en reviens pas, t'as dit sans nom. Mais c'est oui, vrai. J'y ai pensé.
Je pense que je t'avais de raccrocher. Il y a comme un changement. Je me croirais d'horloge biologique. Je comprends plus ce qui se passe.
Ça me prenait un volant gainé en cuir.
Yann, il n'y a pas la crise de la cinquantaine. Il y a genre une crise de la quatre-vingtaine.
Arrête de partir de rumeurs, j'ai pas 50.
Mais moi, j'aime ça. Tu dis jamais ton âge, laisse-moi le deviner.
J'ai 26 pour tes amis.
Urk.
Mais Marceau, si tu veux rester un papa cool, là, c'est pas avec une minivan que ça va scorer quand tu vas les porter les gars à l'école. Ça,
j'ai un ami qui en avait. Il est tombé célibataire, puis il avait une van. Il a fait un an. Okay. C'est tellement superficiel. Là. Il scorait pas. Il a changé son auto. Ben, il a un Vaux.
Ben écoute, Pascal, d'après moi, si t'arrives dans les vidéos d'Occupation d'eau, puis tu dis, alors je m'appelle Johnny, je conduis une minivan, puis je viens voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici.
Ben l'auto fait pas le gars. L'auto fait pas la fille.
Ah, arrête, Pascal. Sérieusement, là, ça, tu peux pas dire ça. Là. Tu vois deux gars exactement identiques. Il y en a un qui arrive en Fiat 500 jaune avec des cils dessus. Et il y en a un autre qui arrive avec un Toyota 4x4. Lequel tu prends?
Mais là, c'est super chien ce que tu as fait. Là.
Pascal apprend.
Le manque de jugement là, avec la Fiat puis les cils, là, c'est surtout les cils. En fait, le manque de jugement parle de la personne. C'est pas égalitaire.
Pascal
là.
Va te dire, elle va prendre la personne qui a une intelligence émotive développée.
Et avec du jugement, clairement, les cils, ça va tuer, ça en manque.
OK, je m'en vais travailler ça. Je vous reviens. Si on en revient au sujet, dites-vous que quand même, la minivan aventure, dans le temps, il y avait des Tercel Wagon 4x4. Il y avait des Subaru Legacy Wagon, traction intégrale aussi. Ça faisait déjà le travail il y a des décennies. Puis il ne faut pas oublier que la Toyota Sienna aussi, elle est déjà pas mal capable avec sa traction intégrale, mais c'est sûr qu'on n'a pas la même surélévation. Mais c'est quand même intéressant de voir où est-ce qu'on va, parce que beaucoup de moins de gens risquent de rester pris dans le banc de neige avec ceci, et que dire de partir à l'aventure si jamais il y a 2-3 calvettes. Est-ce qu'on va se rendre en production? Je le sais pas, mais dites-vous que les tendances de l'industrie présentement, que ce soit pour un Hyundai Palisade, un Ford Explorer, un Toyota RAV4, n'importe quel modèle coréen, voire même Honda. On a tous des versions d'aventure hors route sur lesquelles on se dirige. On les appelle de manière différente. Des fois, il y a une mention Pro, XT, Off-Road et ainsi de suite. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on mette une petite touche en face là-dessus. Ça risque de se vendre.
Okay. J'ai des questions d'auditeur, Matt, avant de te quitter. Là. Que penses-tu de la garantie contre la rouille, pas juste sur la perforation, mais contre les taches de rouille? Est-ce que le concessionnaire honore en tout temps la garantie?
La réponse, c'est lisez les petits caractères. Et n'oubliez pas une chose, louer un véhicule et acheter un véhicule, c'est deux choses différentes. La corrosion, souvent, n'apparaît pas au niveau des premières années. Ça apparaît vraiment plus tard. Donc, j'ai de la misère à voir comment que ça pourrait être encore une fois rentable. L'autre chose, n'oubliez pas que le climat du Québec est un climat qui est impardonnable. Si vous ne traitez pas vos véhicules en anti-rouille, peu importe lequel, il va rouiller. Et souvent, on va insister sur le fait de « Ah, c'est pas percé, c'est pas garanti ». Et dites-vous que les peintures aujourd'hui, dépendant certains modèles, on pourrait parler de certains modèles américains, ça lève en galette. Et de ce temps-ci, c'est très difficile de faire respecter des garanties lorsqu'on parle d'esthétique du véhicule. C'est toujours la faute du propriétaire, c'est toujours la faute d'un produit que vous auriez mis dessus. Et encore là, n'oubliez pas, là, si on vous avance ça, c'est aux concessionnaires et aux fabricants de faire la preuve de ce qu'ils avancent. Donc, n'hésitez pas à les challenger. Les véhicules d'aujourd'hui utilisent des peintures toujours plus minces. Dès qu'il y a un éclat, un caillou, ça lève. Dites-vous que ce n'est pas juste la rouille maintenant qu'il faut se préoccuper, mais bel et bien de l'ensemble esthétique complet d'un véhicule.
Que penses-tu du Kia Niro HEV SX 2025?
Excellent véhicule qui répond à beaucoup de besoins. L'économie tant au niveau... Ben là, effectivement, on parle d'un véhicule qui est hybride, là, si je ne me trompe pas. Donc, l'économie d'essence qui est là, Hyundai score est très fort. C'est un véhicule qui est beau. C'est un véhicule qui est très urbain. Ça fait amplement le travail.
Salut Yann, peux-tu demander à Mathieu Thomassin? Je viens d'acheter une Audi SQ5 2021. J'ai pris 2 ans supplémentaires comme garantie. Il en pense quoi?
À partir de là, c'est un très bon move parce que les véhicules de luxe usagés comme ceux-ci, là, ça paraît pas, là, mais 2021, là, lorsqu'on va atteindre 2026, on a déjà 5 ans en arrière de la cravate, ça peut être très cher. Cependant, au niveau des garanties, faites bien attention de lire comme il faut. Lire si vous avez des franchises. Lire et de garder aussi vos historiques d'entretien. Vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de petits caractères de surprise qui pourraient faire un moment donné valoir que oups, la suralimentation n'est pas garantie sur ce véhicule-là. Je vous le dis tout de suite, quand vous signez une genre de PPP comme celle-ci, une garantie « on the side », assurez-vous que votre vendeur y fait amplement le travail, mais je comprends aujourd'hui beaucoup pourquoi les acheteurs de véhicules de luxe usagés sont attirés vers ça, parce que les réparations maintenant de ces véhicules-là, ça coûte les prix de fou. Mais assurez-vous que vous avez la meilleure garantie. Puis sinon, faites attention au prix. Gardez-vous cet argent-là peut-être sur le site, dans un petit placement dans lequel il va croître, je ne sais pas, moi, sur 2-3 ans, avec un bon petit pourcentage. Puis si vous en avez besoin, bien, sortez cet argent-là puis mettez-le là-dessus.
Salut les gars, j'ai une Toyota Sienna 2025 hybride. J'ai payé 3 000 $ pour avoir une garantie kilométrage illimité par choc à par choc. Qu'en penses-tu?
C'est un véhicule qui est extrêmement fiable de base. Les seuls échos que j'ai sur les dernières Sienna, c'est des petites finitions qui ne sont pas vraiment propres à la sortie de l'usine. Donc, soyez vigilants. Cependant, tout ce qui est la technologie Toyota au niveau motorisation, au niveau système hybride, il y a déjà des excellentes garanties. À moins que tu me dises que tu fais 50 000 km par année, là, ça peut peut-être valoir la peine. Mais en dehors de ça, le véhicule est fiable pas mal de A à Z. Faites attention du côté des esthétiques, c'est de la peinture au niveau des pare-chocs, voire même des fois au niveau de ce que le concessionnaire va confier. Justement, tu achètes de la protection par pierre ou autre. Il y a des gens qui donnent des coups de ciseaux, des coups de couteau sur les véhicules pour l'installation de certains pare-pierres parce que le concessionnaire veut trouver le plus cheap. Assurez-vous que la personne qui le fait, si vous le prenez par le concessionnaire, est un pro. Puis sinon, je vous le dis tout de suite, écrivez-moi en privé. J'en ai une couple de pros là, que je suis capable de vous donner qui sont là depuis très longtemps en affaires puis qui font un job exemplaire. Puis souvent, c'est eux autres qui le font pour des concessionnaires, mais ils sont tellement en demande qu'ils ne font pas tous les concessionnaires. Ils font juste ceux-là qui veulent, comme on dit.
Est-ce que le Nissan Pathfinder a une bonne capacité de remorquage? Et si oui, de combien approximativement? Ça, je pense que dans le livre, ça doit être indiqué, la capacité de remorquage du Nissan Pathfinder.
Exactement. Voir toujours le manuel du propriétaire au niveau de ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a certains modèles qui peuvent varier. Si on va chercher un modèle un peu plus de base, là, je vois de mémoire, là, d'après moi, ça tourne autour de 3 000-3 500 livres. C'est sûr que si on prend les modèles les plus équipés, d'ailleurs, je pense que le Pathfinder, eux autres, leur modèle hors route, ils ont comme un modèle Rock Creek là, qu'ils appellent. Celui-ci est capable d'aller jusqu'à 6 000 livres. Je vais être franc avec vous, à 6 000 livres accrochés en arrière d'un Pathfinder, assurez-vous que c'est bien balancé, assurez-vous que votre remorque est droite et vous assurez, s'il vous plaît, que vous ne dépassez pas. Ma recommandation serait de rester minimum 1 000 à 1 500 livres en dessous du chiffre qui est annoncé. Puis là, tu vas me dire pourquoi, mais il est annoncé que ça le fait. Oui, mais ce n'est pas fait pour le faire tout le temps. On a quand même une bonne structure. Mais encore là, il y a un paquet de facteurs qui peut influencer. Puis 6 000 livres dans le derrière d'un véhicule, bon, trois rangées, sport utilitaire, qui n'a pas un frame de camion, je vous le dis tout de suite, quand vous allez sauter ces breaks, vous allez vous en rappeler toute votre vie.
Est-ce que tu as commencé à avoir des véhicules Scoot, de Scoot Motors, sur la route? Il me semble que, je ne sais pas si Pascal, tu peux aller voir le modèle, mais il me semble que j'en ai pas vu, moi, à Québec.
Non.
Comment t'écris ça?
Non, on n'a pas vu. Scoot. On n'a pas vu de côté.
Qu'est-ce que tu dis, Matt?
On n'en a pas vu, effectivement, de notre côté encore. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu de nombreux litiges aussi là, avec Scoot et avec tout leur processus de manière dont ils voulaient faire la vente de ces véhicules-là. On est toujours en mode réservation sur ceux-ci, mais okay. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais ça, c'est le genre de petite compagnie qui a créé un engouement quand même assez extrême. Prenez la peine d'aller voir là, sur le site et de lire leur histoire. Et encore là, on voit là, que c'est pas facile dans le monde de l'industrie automobile d'arriver avec un véhicule, de l'annoncer, prendre les réservations et non seulement de le livrer rapidement aussi. Là.
Mathieu Thomassin, chroniqueur auto, question auto car question, c'est là où on te retrouve?
Ben oui, c'est là qu'on me retrouve, là, parce que là, avec toutes les annonces de la programmation, il faudra pas que tu oublies de dire aux auditeurs où est-ce que je vais me retrouver aussi, là, parce que ça va être
important. Tu vas être là le matin avec nous autres, on t'oublie pas, je t'oublie jamais, ça fait depuis 2011 qu'on fait de la radio ensemble, mon ami, puis je te laisserai jamais derrière.
Ah, hey, ça, j'adore ça, mais là, tu me crées un petit peu de pression. Fait que je vais retourner travailler fort pour faire les meilleures chroniques automobiles.
Mais je veux juste te dire que Pascal a essayé de te voler. Elle a essayé de te voler, elle a dit, si tu le veux encore, moi, je vais le kidnapper. Fait que là,
non, mais ça, c'est dans notre vie personnelle.
Ah, excusez.
Oh, après 19h, anytime.
Vous gérez vos affaires.
T'arriveras avec une Fiat avec des cils.
Ça marche. Salut, on essaie comme ça. Bye bye. Salut, bye-bye.
13h06, on va faire une courte pause, les amis. Si vous avez des choses à nous dire, il se passe quoi que ce soit sur la route, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. C'est par texto.